VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du mercredi 27 mai 2015. À la une ce soir.
Nouvelle journée d'affrontement mortel au Burundi où l'opposition réclame le report des élections.
Au Rwanda, une pétition demande au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat en 2017, 23 ans après son accession au pouvoir.
Crise au Yémen, de nouvelles frappes de la coalition font 36 morts dans le camp des rebelles houthis soutenus par l'Iran.
L'armée irakienne aux portes de Ramadi met la marche vers la reconquête de la capitale d'Al-Anbar. S'accompagne d'un lourd bilan. Au moins 17 soldats sont morts aujourd'hui dans des attentats attribués aux djihadistes.
La FIFA dans le collimateur de la justice américaine. 7 dirigeants de l'organe responsable du football mondial sont sous les verrous pour corruption.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Nouvelle journée d'affrontement mortel au Burundi ce mercredi. La pression de la rue ne faiblit pas, tout comme l'intransigeance du pouvoir. L'opposition demande le report des élections, nous dit Nicolas Pinault.
Ce mercredi, environ 200 manifestants ont marché dans la ville de Matana, dans la province de Bururi. La police est intervenue et a tiré. 3 manifestants ont été blessés. L'un d'eux est mort peu après en raison de coups reçus à la tête. Plusieurs personnes ont également été arrêtées par la police lors de cette manifestation. Dans les rues de Bujumbura, la police déployée en masse est parvenue pour la première fois à empêcher quasiment toute manifestation. Dans les quartiers de Musaga, Nyakabiga, Kanyosha et ailleurs, les policiers ont pris position avant l'aube pour prévenir tout rassemblement. Intervenant immédiatement à coups de gaz lacrymogène et tirs de sommation pour disperser tout groupe suspect. À une semaine des élections législatives et municipales au Burundi, l'opposition juge impossible la tenue de ces scrutins en raison du désordre et de l'insécurité dans le pays, appelant la communauté internationale à ne pas cautionner ce hold-up électoral annoncé selon elle. Les législatives et les municipales avaient déjà été reportées de 10 jours sous la pression internationale. Suivront en principe une présidentielle le 26 juin et des sénatoriales le 17 juillet. Les dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est se réuniront dimanche en Tanzanie à Dar es Salaam pour tenter de trouver une position commune sur cette crise burundaise.
Et pendant ce temps, au Rwanda, environ 2 millions de personnes demandent une réforme constitutionnelle pour permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Leur pétition sera examinée pendant l'été au Parlement, indiquent les autorités citées par l'AFP. Monsieur Kagame, rappelons-le, est au pouvoir depuis que sa rébellion du Front patriotique rwandais a mis fin au génocide de 1994.
En République centrafricaine, il est aussi question d'élections. Le vote récemment reporté doit impérativement se tenir cette année, estime le ministère français des Affaires étrangères, alors que la présidente de transition Catherine Samba-Panza est en visite à Paris. Citée par l'AFP, elle aussi a affirmé sa volonté de ne pas indéfiniment aller de report en report et d'organiser d'ici la fin 2015 ses élections présidentielles et législatives initialement prévues en août.
Et législatives éthiopiennes, des résultats partiels ont été publiés par la commission électorale et sans surprise, la coalition au pouvoir a remporté une écrasante victoire aux élections de dimanche. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens s'est déjà emparé de 442 sièges sur un total de 547. Le premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, qui avait succédé à Meles Zenawi à sa mort en 2012, devrait donc être reconduit.
À Madagascar, les députés ont voté hier la destitution du président Héry Rajaonarimampiane. Ce dernier conteste le vote et le dernier mot reviendra à la haute cour malgache. Le point avec Idriss Fall.
Héry Rajaonarimampiane, 56 ans, se présentait en homme neuf lorsqu'il est arrivé au pouvoir après les élections de décembre 2013. Il avait mis 2 mois et demi pour trouver un premier ministre, limogé au bout de 8 mois. Son propre parti est resté un groupuscule ne disposant d'aucun député à l'Assemblée nationale. Ses détracteurs lui reprochent ses tâtonnements et son inefficacité. 121 députés ont voté hier sa destitution, l'accusant d'incompétence et d'avoir violé à plusieurs reprises la Constitution. Le président malgache conteste la régularité du vote, assurant qu'il était toujours là et que le pays a besoin de stabilité après toutes ces années de crise. Les regards sont maintenant tournés vers la haute cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la pertinence de la destitution votée par des députés, mais aussi sur le respect de la procédure.
Mobilisation ce mercredi matin des organisations des médias à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elles ont tenu un sit-in devant le CSC, le Conseil supérieur de la communication, pour exiger la levée immédiate de la suspension des médias des émissions interactives sur les médias audiovisuels. Sans avoir eu gain de cause, elles ont décidé de la reprise de ces émissions dès demain. Abdoulaye Diallo est le gestionnaire du centre de presse Norbert Zongo.
On a décidé ce matin de faire un sit-in pour se faire entendre, pour demander la levée de la mesure, la levée immédiate sans condition de la mesure. Les organisations de médias viennent de se réunir, mais déjà je peux vous dire que la décision se dit que compte tenu du fait que la présence du CSC a été désavouée par plus de la majorité des conseillers, on fait une lettre pour désavouer l'attitude de la présidente et demander la levée immédiate comme nous de la mesure. Compte tenu du fait que c'est une mesure illégale, attentatoire à la liberté d'expression et de la presse, mais, et compte tenu aussi de l'entêtement et de la non-collaboration, ben, les organisations professionnelles et promoteurs ont décidé simplement de faire comme la présidente du CSC, donc de continuer de reprendre les émissions. On ne peut pas continuer à respecter une mesure illégale. Et quand on le fait savoir et qu'on n'est pas entendu, et qu'on tente de nous rouler dans les farines, on tente de nous opposer, de nous diviser, et de nous faire dire ce qu'on n'a pas dit, mais finalement on finit, mais voilà, la décision, on fait comme la présidente du CSC.
Abdoulaye Diallo du centre de presse Norbert Zongo.
Un professeur congolais récompensé par l'Institut de France, Jean-Jacques Mouyembe, a reçu le prix Christophe Mérieux 2015 pour encourager ses recherches sur Ebola.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au Yémen, au moins 36 combattants rebelles ont trouvé la mort à Sanaa, la capitale, lors de raids aériens de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Dans cette campagne militaire qui se poursuit contre les insurgés chiites, ayant pris le contrôle de larges portions du territoire yéménite, de nombreux civils et combattants ont également été tués ou blessés le long de la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen. C'est ce qu'indique l'agence de nouvelles Reuters. L'offensive lancée fin mars a déjà fait plusieurs milliers de morts et réduit l'accès à la nourriture, aux médicaments et carburants pour la population civile.
Par ailleurs, le gouvernement saoudien a annoncé aujourd'hui des sanctions contre deux dirigeants présumés du mouvement chiite libanais Hezbollah, accusant l'un d'eux d'ingérence dans les affaires du Yémen, selon l'AFP. Sachez que le Hezbollah est un allié de l'Iran qui soutient les rebelles chiites du Yémen, tandis que les Saoudiens appuient les sunnites et le président en exil Abd Rabbo Mansour Hadi.
Et des attentats suicides ont tué au moins 17 soldats irakiens dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak. Selon les autorités, ces attaques ont eu lieu hier soir à proximité de la ville de Fallujah, contrôlée par le groupe État islamique. Elles interviennent quelques heures seulement après le lancement d'une offensive de l'armée irakienne pour la reconquête de Ramadi, la capitale de la province d'Al-Anbar, et d'autres localités prises par les djihadistes. Aidés de miliciens chiites, les soldats du gouvernement mènent des opérations essentiellement aux abords de Ramadi, tentant de couper les voies de ravitaillement des islamistes avant de lancer la grande bataille pour la reprise de Ramadi.
Les responsables arrêtés au cours de la vaste opération menée ce mercredi contre la FIFA ont corrompu le football mondial. C'est ce qu'a déclaré Loretta Lynch, la ministre américaine de la Justice, lors d'une conférence de presse à New York. Jacques Aristide.
Le gouvernement mondial du football, ébranlé donc ce mercredi par des scandales de corruption. 9 élus de la FIFA et 5 partenaires de l'instance ont été inculpés de corruption, racket et blanchiment à New York, accusés d'avoir reçu ou distribué plus de 150 millions de dollars depuis 1991 pour les droits de diffusion de tournois internationaux. Pour la procureure générale des États-Unis, ils ont corrompu les affaires du football pour servir leurs intérêts et pour s'enrichir personnellement. Loretta Lynch d'ajouter que même l'attribution de la Coupe du Monde 2010 à l'Afrique du Sud, le tout premier pays africain à avoir accueilli l'événement, était corrompue. Les inculpés risquent jusqu'à 20 ans de prison. 7 d'entre eux ont été arrêtés à Zurich, ville où siège la FIFA, et où doit être organisée ce vendredi l'élection du président de la FIFA. L'actuel patron, Sepp Blatter, devrait être élu pour un 5e mandat.
Il faut accentuer la pression et augmenter les sanctions contre la Corée du Nord, tandis que se poursuivent les efforts diplomatiques relatifs au programme nucléaire nord-coréen. Ainsi ont convenu des négociateurs de haut rang des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon lors d'une rencontre à Séoul. Pour le représentant spécial américain Song Kim, les intentions de Pyongyang quant au nucléaire sont évidentes. Nous devons être préoccupés, quel que soit le degré de leur développement, a-t-il ajouté.
La Russie se sert-elle de fours crématoires mobiles en Ukraine ? En tout cas, c'est l'accusation lancée aujourd'hui par deux législateurs américains qui ont pris part à une mission d'information en Ukraine en mars dernier. Selon des extraits d'une interview accordée à Bloomberg News, le président de la commission des services militaires de la Chambre basse, Mark Thornberry, un républicain du Texas, a déclaré « c'est une façon pour les Russes de cacher la réalité sur leurs victimes ».
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Nicolas Pinault.
La Côte d'Ivoire a enregistré une production de coton record cette année, 450 000 tonnes au terme de la saison 2014-2015, soit une hausse de 11% par rapport à la saison précédente. La raison, des conditions météorologiques favorables et l'augmentation du nombre d'agriculteurs dans ce secteur. Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement à Abidjan, pour son cinquantenaire, l'ABAD et son président sortant auraient investi 14 000 milliards de francs CFA dans les infrastructures économiques du continent en 8 ans. Donald Kaberuka sur le départ, la Banque africaine de développement se cherche un nouveau président. 8 candidats sont en piste. Comment ça marche? Chaque pays membre dispose d'un gouverneur. En tout, 80 gouverneurs voteront, 54 représentant les pays africains et 26 les pays dits non régionaux, de l'Argentine aux États-Unis en passant par la Chine. Le Rwanda a réintégré la communauté économique des États d'Afrique centrale, 8 ans après avoir suspendu sa participation à l'instance régionale. Kigali a officialisé son retour lors de la 16e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui s'est tenue le 25 mai à N'Djamena. La CEAC a été créée en 1983 et réunit l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Tchad et donc le Rwanda. Enfin, la Banque mondiale mobilise 248 millions de dollars pour appuyer 2 millions de pasteurs dans le Sahel.
Voilà pour la Minute Éco avec Nicolas Pinault.
Pour les sports, on accueille en studio Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chiroubin, bonsoir à tous.
Alors la grande nouvelle ce mercredi, coup de filet sans précédent à la FIFA.
Oui, l'instance mondiale du football a été frappée tôt ce mercredi matin par un double séisme avec l'arrestation de 7 responsables soupçonnés de corruption et par la perquisition de son siège à Zurich dans une affaire distincte portant sur l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Vers 6 heures du matin, des policiers suisses en civil opérant à la demande des autorités américaines se sont présentés au luxueux hôtel 5 étoiles bord au lac du centre de Zurich où sont logés les principaux dirigeants de la FIFA avant le congrès prévu jeudi et l'élection de vendredi.
Et quelles sont quelques-unes des réactions ce soir ?
Eh bien, la Confédération brésilienne de football a apporté ce mercredi son soutien intégral, c'est leur expression, à l'enquête sur la coopération au sein de sur la corruption au sein de la FIFA. Quant à la Russie, elle a dénoncé l'application illégale de la loi américaine après cette interpellation en Suisse de plusieurs personnes liées à la FIFA. Nous appelons avec insistance Washington, c'est ce que dit le ministre russe des Sports, à mettre fin à ses tentatives d'exercer la justice bien loin de ses frontières selon ses normes juridiques et à suivre les procédures juridiques internationales généralement admises.
Et il faut dire que l'UEFA demande aussi le report du congrès de la FIFA et de l'élection pour le nouveau président. On parlait la semaine dernière de Rigaud Gervais. Il a atterri en Guinée, Bagassi.
Oui, l'Ivoirien a été nommé entraîneur de l'AS Kaloum, en lieu et place de son compatriote François Zaoui, limogé et devenu sélectionneur du MENA du Niger.
NBA, les playoffs se poursuivent, mais sans Atlanta.
Oui, ils ont été éliminés hier soir 118 à 88 par LeBron James et les Cavaliers, les nouveaux champions de la conférence Est qui se sont ainsi qualifiés pour la finale de la NBA. Les Cavaliers, qui ont eu 4 victoires consécutives sur Atlanta, attendent maintenant de savoir qui des Golden State Warriors ou des Houston Rockets sortira vainqueur du championnat de la conférence Ouest. Les Warriors de Steph Curry mènent la série 3-1. Ils jouent donc à domicile ce soir et pourraient se qualifier en remportant ce match.
Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorcil et Morgane Guiriac en votre compagnie. Première escale ce soir, le Nigeria.
Pour nos dossiers, bien sûr, le président élu Mahamadou Buhari doit prêter serment vendredi à Abuja. Durant sa campagne, il avait promis le changement et de nombreux défis l'attendent dans le pays le plus peuplé du continent africain. Il y a en ce moment une pénurie de carburant chez le premier exportateur de pétrole. Sur les attentes du Nigérian moyen, il risque à l'adjoint Ibrahim Yakubu, un habitant de Kaduna, dans le nord du Nigeria.
Je crois qu'il y a beaucoup de défis que le nouveau président du Nigeria doit se confronter. Tout d'abord, vous savez qu'il y a des problèmes de chômage qui dérangent les gens ici au Nigeria. Il y a aussi des problèmes de carburant. Jusqu'à présent, depuis une semaine, il n'y a pas de lumière ici au nord du Nigeria. C'est presque partout au Nigeria. Là, c'est un problème qui dérange tout le monde pour le moment. Il y a aussi la disparition de supporters. Jusqu'à présent, ce n'est pas là où ils sont. Il y a aussi des problèmes de sécurité. Et ça, c'est un grand problème qui cause des dégâts.
Quand vous parlez de sécurité, vous faites allusion au groupe Boko Haram.
Nous parlons même de Boko Haram. Ça, c'est un problème même. La seule chose que je peux dire, le problème que le nouveau président au Nigeria va se confronter, vous voyez, dès le début même, c'est la corruption. S'il va combattre vraiment la corruption, là, vraiment, c'est la première chose qu'il doit faire. Et puis, une autre chose pour dire, c'est mettre la fin au problème de Boko Haram. Ce problème de Boko Haram cause beaucoup de dégâts ici au Nigeria, pas même au nord. Non, c'est partout ici au Nigeria. Ça détruit la paix. On ne peut pas dire qu'il y a la paix ici, comme maintenant, si quelqu'un va rentrer à la mosquée ou bien à l'église. Vous ne pouvez pas aller tous les endroits que vous voudrez aller assez paisiblement, mon frère. Celle de Boko Haram, là, c'est une chose qu'on n'a jamais pensé qu'il va arriver au Nigeria, ce problème de Boko Haram. Je n'ai jamais dans ma vie pensé que je pourrais rentrer au marché central. Quelquefois, si je veux rentrer, je vais penser que donc, peut-être s'il y a un classement de bombes, qu'est-ce que je dois faire? Si je voudrais aller quelque part, parmi là, même à l'école, une autre chose que je peux dire, il faut qu'il fasse tout possible pour mettre la fin de problèmes de chômage. Parce que beaucoup de gens ici au Nigeria, ils ont des problèmes de chômage. Ils n'ont pas le travail à faire. Du matin au soir, vous allez voir les gens qui sont en train de rouler sous le goudron à la recherche de travail.
Et qu'en est-il de l'électricité?
Oui, là aussi, c'est un autre problème. Les gens, je te dis, on utilise le générateur du matin au soir. Mais maintenant même, depuis une semaine chez moi, il n'y a pas de l'électricité. On dort comme un villageois. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'ancien président, c'est-à-dire lui qui va partir, Goodluck, là, vraiment, ce que je peux dire, c'est comme il n'a pas travaillé pour ce côté. On est là quand même. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé au Ghana, Tchad et d'autres pays voisins. Ils n'ont pas de problème de l'électricité. Ils n'ont pas aussi de problème de carburant. Mais alors, nous aussi, comme toujours, on écoute souvent l'électricité partout, dans d'autres pays francophones. Mais ici, au Nigeria, c'est vraiment autre chose, mon frère.
Ibrahim Yakubu, un habitant de Kaduna, dans le nord du Nigeria.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur le drame de l'immigration en Méditerranée. Les naufrages ont déjà fait des milliers de morts. Comment l'Union européenne peut-elle régler le problème? Faut-il un plan robuste contre les trafiquants de migrants? Et l'Union africaine doit-elle agir également? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Burkina Faso, où le principal mouvement des droits de l'homme ne prendra pas part à la journée d'hommage aux 34 martyrs de l'insurrection d'octobre, prévue le 30 mai prochain. Le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, entend ainsi protester contre le manque de volonté des autorités de la transition d'ouvrir des enquêtes sur ces assassinats. Ali Sanou est le secrétaire général du MBDHP.
Pour le moment, nous n'avons aucune information sur l'ouverture d'enquête. Et lors des investigations pour l'élaboration du rapport, nous nous sommes rendus compte que dans les localités que nous avons visitées, les familles que nous avons rencontrées, apparemment aucune procédure judiciaire n'a été ouverte.
Alors, et dans votre rapport, hein, vous mettez en cause le RSP, ce régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré?
Oui, évidemment, nous avons constaté pendant les journées insurrectionnelles que dans un premier temps, le 30 octobre, le PSP a ouvert le feu et a tué des personnes, d'abord au domicile de François Compaoré, petit frère de Blaise Compaoré, dont ce domicile, il faut le relever, est gardé par les éléments du régiment de sécurité présidentiel.
Si ce dossier-là ne bouge pas, est-ce que ce n'est pas aussi parce que les principaux responsables de ce régiment-là, je veux dire le commandant Kéré, le général Gilbert Diendéré, et surtout le premier ministre Isaac Zida, qui était le numéro 2 de ce régiment-là, sont toujours en place?
Oui, je suis d'accord avec vous, parce que lorsque nous suivons nos autorités, nous nous rendons compte que leur souci, c'est de rendre hommage aux victimes de l'insurrection populaire. Alors que le plus grand hommage qui puisse leur être rendu du point de vue de notre gouvernement, c'est de travailler à ce que les personnes qui les ont tués et les personnes également qui ont ordonné qu'on tire dans les réels sur ces personnes soient arrêtées et jugées conformément aux lois en vigueur dans notre pays. Et la transition ne semble pas être un sujet de préoccupation. Comme nous l'avons dit, parce que nous constatons que certains responsables de la transition ont été également, de par le passé, responsables du régiment de sécurité présidentielle, notamment le premier ministre de la transition, qui, il faut le rappeler, au moment des faits, était le numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle.
Alors, même après le départ de Blaise Compaoré, il y a eu certaines personnes qui ont été tuées par balles, notamment autour de la télévision nationale. Est-ce que vous attribuez cela aussi au RSP?
Oui, le corps qui est intervenu le 2 novembre à la télévision nationale, c'était des éléments du régiment de sécurité présidentielle qui ont ouvert le feu. Et sur place, il y a eu un mort et un blessé qui a été conduit à l'hôpital et qui a succombé des suites de cette blessure. Nous confirmons qu'il s'agissait bien du régiment de sécurité présidentielle.
Ali Sanou, le secrétaire général du MDHP, était joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Cap maintenant sur le Togo pour parler de la flambée du prix du maïs sur le marché togolais. Depuis près de mois, le bol de 2,5 kg est vendu à 600 francs CFA ou même plus. Les associations de consommateurs dénoncent cette situation et demandent à l'État d'approvisionner les marchés avec les excédents céréaliers de la campagne passée. Les producteurs, eux, demandent un moratoire de 2 ou 3 semaines. Reportage à Lomé de Kayi Lawson.
Au lendemain de l'élection présidentielle, les prix de certains produits alimentaires ont connu une hausse au Togo. C'est aussi le cas du maïs, qui est l'aliment de base des Togolais. En cette période, le prix du bol de 2,5 kg de maïs varie entre 400 et 500 francs CFA. Mais depuis quelques semaines, des Togolais déboursent 600 voire 700 francs CFA pour acheter un bol de ces céréales. Pour la Ligue des consommateurs togolais, c'est une spéculation entretenue par les exportateurs de maïs. Emmanuel Sogadi, président de la LCT.
Cette augmentation du fait que la demande est plus forte par rapport aux pays de la sous-région, le Ghana, le Bénin, le Gabon, le Mali, le Niger, qui ont l'habitude d'acheter le maïs au Togo. Et si ça augmente, les grands commerçants et les grandes commerçantes profitent pour pouvoir s'enrichir. Et ce qui fait que les propres Togolais, ceux qui sont sur le territoire national, ont des effets pervers. Le ministre nous a dit que les jours à venir, ils vont verser le stock sur le marché. Ça veut dire que dans les jours à venir, le prix va se réguler automatiquement sur le marché.
Si les consommateurs sont dans l'expectative de la mise sur le marché du stock de sécurité de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, les producteurs, eux, demandent à l'ANSAT de reporter de quelques semaines l'approvisionnement des marchés. Et Rovi Kebi, président de la Chambre d'agriculture de la région des Plateaux.
Les consommateurs n'ont qu'à prendre de patience. Il nous faut encore 2 semaines, 3 semaines. Parce que si l'ANSAT fait sortir son stock aujourd'hui, c'est que les stocks que nous disposons encore sur nos banques, nous ne pouvons pas les écouler à ce prix quand même. Parce que si nous avons de l'argent, nous pouvons rembourser nos banques et nous pouvons relancer la production.
Le ministre de l'Agriculture se veut rassurant. Il indique que des dispositions sont prises pour satisfaire toutes les parties. Nous écoutons Ourokoura Agadazi.
Dans les jours à venir, le gouvernement togolais mettra à travers l'ANSAT tout le volume de stock que l'ANSAT a réalisé cette année. Donc il n'y a pas d'inquiétude, aussi bien pour les paysans pour les consommateurs que pour les commerçants. Parce que la projection des stocks prendra en compte les intérêts des paysans. Il faudrait maintenir cette approche de manière à ce que les paysans puissent relancer la production au cours de l'année prochaine. Dans la même veine, il faut nécessairement travailler pour que les consommateurs puissent avoir dans quelques jours du maïs sur l'ensemble du territoire sans perturber les activités des femmes commerçantes.
Soulignons que les besoins annuels du Togo en matière de maïs sont à plus d'un million de tonnes. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Une personne sur neuf dans le monde ne mange pas à sa faim, soit 795 millions selon le rapport de la FAO, publié ce mercredi conjointement avec le PAM et le Fonds international de développement agricole. En un quart de siècle, le chiffre a cependant baissé d'environ 216 millions, sachant que la population a fortement augmenté depuis 1990. 72 des 129 pays suivis par la FAO ont atteint l'objectif du millénaire 2015, qui visait à réduire de moitié la sous-alimentation. Malgré des progrès, l'Afrique subsaharienne accuse encore la prévalence la plus élevée de malnutrition. Nathalie Binge a contacté Luca Russo, économiste à la FAO.
Le rapport sur l'Afrique est un peu mitigé, dans le sens qu'il y a certains pays où on a eu des progrès remarquables, c'est des pays où on a mis en place des politiques de sécurité sociale et de développement importants. Je peux citer par exemple l'Éthiopie ou le Ghana. Mais en même temps, reste vrai que l'Afrique, c'est le continent avec les problèmes les plus marqués. Et ces problèmes sont marqués surtout dans une série de pays que nous, on appelle pays en crise prolongée, c'est-à-dire des pays où il y a une série de différents facteurs, voire conflits, voire questions de sécheresse, voire des questions de politique nationale, qui font de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de progrès ou aucun progrès dans certains de ces pays. Je peux citer la Somalie, je peux citer le Sud-Soudan, je peux citer la République centrafricaine.
Qu'est-ce que la FAO recommande, notamment en matière agricole ?
La première chose, que l'investissement en agriculture, et surtout dans l'agriculture vivière, et on a une évidence sur ça, porte à des résultats de réduction de l'insécurité alimentaire ou de la pauvreté trois fois majeurs par rapport à des investissements un peu plus, disons, d'ordre général. L'autre chose absolument importante pour nous, c'est de mettre en place dans tous les pays à risque des filets de protection sociale qui peuvent être basés sur, par exemple, de transfert en espèces aux groupes plus vulnérables. Parce qu'à travers ces transferts, on peut assurer que les populations les plus vulnérables puissent aussi faire des investissements dans le secteur agricole et dans le secteur productif. Tous ces objectifs-là, pour être atteints, ont besoin d'une volonté politique que malheureusement n'est pas toujours présente, ni au niveau global, ni au niveau des pays. Les pays qui sont en train d'atteindre les objectifs du millénaire, c'est tous des pays où il y a une très forte volonté politique pour investir sur la sécurité alimentaire.
Luca Russo, économiste à la FAO, est adjoint à Rome.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, country music, comédie et musique internationale. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Que pensez-vous du mariage précoce ? Après le mariage forcé, nous enchaînons bien sûr avec le mariage précoce. Aussi les amis, 28 ans après sa mort, on continue à parler de Thomas Sankara. Que retenez-vous de l'homme ? Vos points de vue cette semaine dans RM Show. Envoyez-nous vos réactions par SMS au plus 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, cette édition touche à sa fin. On remercie à la mise en onde ce soir Georges Léonard Sagnot. Il vient de se signaler, son nom c'est Al Santos, qui est à la console. Présentation Morgane Guiriac et chez Ruben Orsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.